Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Le mouvement de contestation en 2011 a touché de nombreux pays arabes et la Libye ne fait pas exception à la règle. Le chaos qui en a résulté s'inscrit d'ailleurs dans le contexte d'impasse politique de ces soulèvements populaires. C'est ce qui ressort de l'analyse développée dans le nouveau numéro de la revue Hérodote consacré à ce pays, un numéro coordonné par notre invité Ali Ben Saad, professeur à l'Institut français de géopolitique à Paris 8 et qui montre toute la complexité de ce chaos libyen dont les revendications citoyennes initiales n'ont pas totalement disparu. Et toujours notre revue de la presse régionale Israël et monde arabe avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Ali Ben Saad.
Bonjour Éric Bataillon.
Professeur à l'Institut français de géopolitique, Université de Paris 8. Nous sommes en duplex avec vous depuis Aix-en-Provence, grâce aux moyens techniques de France Bleu Provence, que je remercie ici. Dans ce numéro d'Hérodote consacré à la Libye et que vous avez coordonné, vous vous livrez à une anatomie d'un chaos. Ali Ben Saad, ce chaos que vous analysez est-il une conséquence de ce que l'on a appelé les printemps arabes ?
Oui, alors en même temps, il s'inscrit dans cette tendance générale des printemps arabes. Il y a eu en Libye aussi donc un soulèvement qui était citoyen, démocratique, urbain, qui n'a pas été seulement le produit d'une influence de ce qui se passait dans les deux pays voisins, puisqu'il y avait déjà une contestation, un noyau de société civile qui, longtemps avant le déclenchement des printemps arabes, s'était déjà exprimé dans ce pays-là. Presque 2 années avant le déclenchement des printemps arabes, il y avait un mouvement autour des prisonniers politiques. Et il était organisé autour d'avocats qui commençaient à grignoter des espaces de liberté d'un Kadhafi qui aussi, pour se réintégrer dans la communauté internationale, puisqu'il sortait d'un très long embargo, a dû un peu faire quelques concessions. Sauf que s'il y a différence avec le reste des pays arabes, c'est qu'il n'y avait aucune tradition partisane et associative, mais c'était plus le fait d'une politique de 42 années. Vous savez que l'appartenance à un parti était punie par la condamnation à mort. C'est quelque chose d'hallucinant.
Ali Ben Saad, pour revenir sur les printemps arabes, qu'est-ce qui n'a pas marché pour les contestataires en 2011 ? Est-ce une absence de leader ou plutôt une répression trop féroce ?
Comme vous le savez, si les contestataires et les élites des contestataires ont eu cette capacité de faire tomber des pouvoirs, par contre, ils n'avaient absolument pas la capacité d'interagir avec les multiples événements qui se sont succédés. Vous savez, un processus révolutionnaire, c'est une fusée à plusieurs étages. Et nulle part, les contestataires n'ont réussi à la fois à mener jusqu'au bout le mouvement de contestation et surtout à présenter une alternative. Et cette absence d'alternative a créé une béance qui fait que toutes les faiblesses qui ne sont pas conséquences des mouvements de contestation, mais qui préexistaient déjà et qui avaient déjà miné les États, se sont manifestés et ont pris le dessus. Mais tous les États ont essayé de fonder leur légitimité sur la base de liens primordiaux pour pouvoir contrôler tout en échappant à la démocratie. Justement, on présente la Libye souvent comme un épouvantail, mais en fait, ce qui s'est passé en Libye, c'est de façon plus exacerbée les faiblesses qui se passaient ailleurs.
Quel rôle ont joué, Ali Ben Saad, les revendications des minorités comme les Toubous ou les Amaziques dans l'instrumentalisation de ce chaos libyen que vous décrivez ?
Il y avait 2 éléments qui sont importants, qu'il faudrait voir. D'un côté, la répression a tellement été féroce et le pouvoir a cherché à morceler la contestation que la contestation s'est repliée sur ses lieux de départ, elle a été morcelée et elle a effacé un peu, si je peux dire, les leaders de la contestation. Mais il y a eu un autre facteur important, c'est-à-dire que comme partout ailleurs, quand il y a une révolution, il arrive que des secteurs importants des pouvoirs se désolidarisent, si ce n'est du pouvoir en tant que tel, au moins des symboles qui le représentent, etc. En Libye, le système était tellement fermé que ceux qui le contestaient n'avaient comme issue que de rejoindre, de basculer carrément dans la contestation. Alors ils basculent dans la contestation et en même temps, ils trouvent face à eux une contestation très atomisée avec des leaders avec un très faible potentiel politique. Or, tous, ils ont un parcours politique un peu extraordinaire. Et en fait, ils vont préempter la révolution. Et là, ils vont, depuis les élections, etc., reconstituer, si je peux dire, un système Kadhafi relooké et qui fera qu'ils vont aller à l'encontre de tout ce qu'il y a fait la force du soulèvement. Vous parlez des minorités, par exemple, les Amazighs et les Toubous ont joué un rôle fondamental, essentiel dans la chute de Kadhafi. Eh bien, ils vont se trouver marginalisés. Lorsqu'il y aura la déclaration constitutionnelle, non seulement il n'y a aucun droit, on nie, on refuse même de nommer ce que sont ces minorités. C'est entre autres un des exemples, et vous faites bien de m'interroger sur ça, qui montre que le chaos qui a eu lieu n'est pas la conséquence de la révolution, il est la conséquence de résistance à tout ce qui a été libéré comme force pendant la révolution et qui s'était déjà imposé sur le terrain. Je dirais que qu'en Libye, c'est cette réminiscence nationaliste qui a récupéré tout le mouvement et qui va essayer de faire barrage à tout ce qui a été libéré par ce mouvement qui va créer des tensions.
Ali Ben Saad, autre élément venant ajouter au chaos, les milices. Ont-elles émergé et perduré parce que l'État libyen est faible? Et aussi, quel rôle la communauté internationale a joué dans l'alimentation du chaos libyen?
Alors, deux choses. D'abord, effectivement, on surévalue le rôle des milices et on veut en faire un peu l'horizon indépassable du champ politique et en même temps son principal perturbateur. Et c'est vrai que les milices font du désordre, mais les milices sont dans une relation étroite de dépendance avec les acteurs locaux et les acteurs internationaux. Chaque fois qu'il y a des tensions entre les acteurs politiques, les milices sont utilisées, si je peux dire, comme une variable d'ajustement et on les renfloue. Chaque fois qu'il y a une tension internationale, regardez cette fois-ci, pourquoi est-ce qu'il y a eu des accords, etc., et que les milices n'ont pas pu perturber? Eh bien, parce que deux grands acteurs, notamment l'Égypte et la Turquie, ont décidé de s'entendre. Et c'est vrai qu'il y avait, si je peux dire, un peu ce reliquat de la libération de la Libye qui était les milices. Mais je peux vous dire une chose, et je l'ai vu sur le terrain, l'écrasante majorité des milices de tout temps ont été disposées à une démobilisation. Il y a souvent eu des programmes qui ont commencé à marcher et qui, subitement, s'arrêtent. Les milices, elles préexistaient, certes, mais ceux qui les ont introduits, qui leur ont donné un grand pouvoir politique, ce sont les politiques eux-mêmes. Donc, je pense, les milices, c'est une réalité, mais elle est trop mystifiée.
Aujourd'hui, Ali Ben Saad, la Libye est un lieu non seulement de passage de l'immigration vers l'Europe, mais aussi un espace de trafic humain. La situation de chaos est-elle responsable de cette triste réalité ?
Oui, effectivement. Alors, il faut rappeler aussi une chose. Avant d'être un lieu de passage, la Libye est un espace d'immigration qui a toujours fonctionné ainsi. Mais les acteurs politiques instrumentalisent, en fait, cette réalité pour à la fois dégrader les conditions de vie des migrants et pour en faire, en fait, une ressource. Ce qui s'est passé, c'est que la fragmentation en Libye a des effets sur la fragilisation déjà des parcours migratoires. C'est-à-dire qu'en fait, pour traverser, etc., il faut passer d'une zone tenue par des groupes armés à une autre, avec des négociations, etc., et qui fragilisent et qui font du migrant une marchandise, si je peux dire. Et puis, il y a cette duplicité, à savoir, on se fait gardien des frontières de l'Europe, mais on utilise cela. Et regardez, lorsque les Italiens, et notamment leurs services de renseignement, ont cru bon de traiter directement avec des milices, pour justement, c'est-à-dire avec les passeurs eux-mêmes qui faisaient passer les migrants, en leur donnant des valises bourrées d'argent, etc., eh bien, ces milices sont devenues, si je peux dire, comme les anciennes tribus nomades, convoyeurs-pilleurs. Ben à la fois, elles empêchaient les migrants de passer, mais elles-mêmes, alimenter, si je peux dire, une surenchère pour à la fois faire pression en faisant passer quand même des migrants, mais en faisant monter très haut le prix du passage. Résultat des courses, ça a poussé à une plus grande fragmentation, parce qu'on renforce certains acteurs aux dépens d'autres, etc. Et ça a rendu le trafic des migrants encore plus lucratif.
La Libye a-t-elle été touchée en 2020 par une seconde vague de contestation populaire qui attesterait que le désir de plus de citoyenneté n'a pas disparu ?
Ben oui, effectivement. Vous savez, effectivement, qu'il y a eu les acteurs internationaux qui ont joué dans le dernier accord, etc., l'entente, le rôle de l'ONU, mais il y a eu deux facteurs essentiels qui ont joué, en fait, dans le fait que les acteurs aient été obligés d'arriver à un accord. Un, la défaite de Haftar dans son attaque contre Tripoli, et un grand mouvement de protestation qui a transcendé les clivages tribaux, ethniques, la cyrénaïque, etc., etc. Et tous ces deux événements-là ont correspondu avec, en même temps, cette reprise de la contestation citoyenne un peu partout dans le monde arabe. Alors, et ce sont ces deux éléments-là, fondamentalement, qui ont contraint les acteurs à arriver à un accord. Il peut être très fragile, c'est possible. On voit des volontés de le remettre en cause, mais il ne faut pas le voir en dehors de ce profond mouvement qui a traversé la société libyenne et qui s'est fait en concomitamment avec le Hirak en Algérie, avec ce qui se passait au Soudan, etc., etc. Et oui, la Libye est un pays en retard sur beaucoup de choses par rapport aux autres pays arabes. Elle n'est pas régie par des particularismes.
Merci Ali Ben Saad.
Merci Éric Bataillon.
Professeur à l'Institut français de géopolitique de l'Université de Paris 8, à lire ce numéro 182 de la revue Hérodote, consacré à la Libye, que vous avez coordonné. Et merci à Mathieu Ribaud pour la réalisation technique de ce duplex en studio depuis France Bleu Provence.
Hebdo sur RFI.
Place à la revue de presse régionale de la semaine. Nous retrouvons Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Alexandre.
Oui, bonjour.
Et Michel Paul à Jérusalem. Bonjour Michel. Avec à la une cette semaine, de la violence, toujours de la violence. Alexandre, vos journaux sont attentifs à l'escalade de la tension entre civils et militaires au Soudan.
Oui, et c'est une tension qui s'est traduite, selon les journaux, par des manifestations de centaines de milliers de Soudanais à Khartoum et dans les autres grandes villes du pays contre le Conseil de souveraineté nationale et son président, le général Abdel Fattah al-Burhan. Un conseil qui représente la composante militaire du pouvoir, alors que les civils sont représentés par le chef du gouvernement, Abdallah Hamdouk. La tension qui monte depuis des mois a explosé après une tentative avortée de putsch. Les militaires ont accusé le gouvernement d'être responsable du putsch à cause de sa mauvaise gestion de l'économie, tandis que les civils ont accusé les militaires de ne pas avoir purgé leur rang des partisans d'un pouvoir militaire. Burhan, dégage et état civil ou révolution permanente étaient les slogans les plus repris par les manifestants selon les journaux. Des manifestants qui veulent un processus clair de remise du pouvoir aux civils, tandis que les militaires affirment que le gouvernement doit être plus inclusif. Des éditorialistes estiment que les militaires se sont discrètement alliés avec le courant islamiste qui avait été écarté par la révolution soudanaise, une situation qui pourrait à tout moment finir en confrontation sanglante, estiment des analystes.
Michel Paul, vous nous parlez cette semaine d'un lieu, la porte de Damas, théâtre perpétuel de frictions.
Oui, absolument. Beaucoup de violence à la une tout au long de cette semaine, Eric, avec de véritables scènes de guerre, notamment donc à cette porte de Damas, un des 7 passages qui mènent à la vieille ville de Jérusalem et qui est devenu un véritable symbole de la révolte des jeunes Palestiniens dans la ville sainte. La porte de Damas continue à faire les titres, affirme un commentateur de Cannes, le diffuseur public. C'est une véritable obsession, souligne-t-il encore. Pourquoi ce lieu est-il tellement explosif? Alors plusieurs articles essaient de l'expliquer sans donner véritablement de réponse convaincante. Ce point de passage où se rencontrent quotidiennement jeunes Palestiniens et juifs orthodoxes en route vers le mur des Lamentations, entourés de manière massive par les bérets verts israéliens, le tout sous le regard de dizaines de caméras, de la police et aussi des médias, est devenu un véritable baromètre du conflit israélo-palestinien et également, dans une large mesure, son catalyseur. Une zone hyper policée, constate un chroniqueur du quotidien de gauche à Haaretz. À la porte de Damas, affirme-t-il, même la célébration d'un anniversaire peut mettre le feu aux poudres et c'est notamment cela qui a déclenché cette semaine de violents affrontements dans ce lieu super sensible.
Alexandre, la presse égyptienne se fait l'écho d'une polémique autour d'un film qui avait remporté un prix au Festival de Cannes.
Oui, le film Riche, ou Plume en arabe, c'est un long métrage égyptien qui avait justement remporté le prix de la semaine des critiques cinématographiques à Cannes. Alors le film a été vivement critiqué en Égypte après sa projection cette semaine au festival cinématographique de Gouna en mer Rouge, indiquent les journaux. Réalisé par Omar Zouheri, le film mélange fantastique et réalisme social. Un père de famille pauvre est transformé en poulet par un prestigitateur durant l'anniversaire de son fils. S'ensuit la lutte de la mère pour subvenir aux besoins de la famille et les diverses pressions sociales auxquelles elle doit résister. Pour les pourfendeurs du film, il donne une image noire de la société égyptienne en vue indirectement de critiquer le pouvoir égyptien. D'autres rappellent que le film a déjà eu le feu vert de la censure officielle. Reste à savoir si le film finira par être projeté dans les cinémas égyptiens et comment il sera accueilli.
Michel, d'autres titres qui font l'actualité dans les médias israéliens?
Visite éclair du Premier ministre israélien à Sotchi, en Russie, pour une rencontre avec le président Poutine. La presse israélienne est unanime. Naftali Bennett veut obtenir un feu vert pour continuer à agir contre des cibles iraniennes sur le territoire syrien. Les attaques israéliennes ces derniers mois, qui ne sont jamais pratiquement revendiquées de manière officielle, se heurtent à un fort barrage de missiles antimissiles russes. Autre sujet qui fait les titres, l'arrestation en Turquie d'un réseau du Mossad, une affaire non confirmée en Israël, mais qui permet d'entrevoir le modus operandi du service secret israélien. Elle a eu aussi les règlements de compte au sein de la société arabe en Israël, 108 victimes depuis le début de l'année. Le dispositif que le gouvernement se propose de mettre en place pour ramener l'ordre fait l'objet d'un vif débat. À Tel Aviv, premier essai du tram, il ne sera opérationnel que dans un an et permettra peut-être de résoudre le problème des embouteillages qui paralysent la ville. Et pour le coronavirus, Eric, chiffre en baisse toujours, mais arrivée des premiers cas du sous-variant AY42.
Et pour finir, comme toujours, Michel, les images que vous avez retenues?
Eh bien, cette semaine, deux photos, Shimon Peres et Yitzhak Rabin, morts respectivement il y a 5 et 26 ans. La commémoration de l'assassinat de Rabin a relancé le débat avec notamment l'absence de Benjamin Netanyahou lors de la cérémonie face à sa sépulture. Et de nouvelles accusations contre l'ancien président Peres pour agression sexuelle. L'équipe qui travaillait avec lui et qui dirige le centre qui porte son nom se campe dans le mutisme.
Merci Michel Paul, merci Alexandre Bouchanti, merci également à Mathias Golchani, réalisateur de cette émission, à retrouver en podcast sur notre site RFI.fr ou sur notre application Pure Radio. Si vous avez le temps et que vous êtes à Paris, allez faire un tour à la foire d'art contemporain Asia Now, qui a mis cette année l'Iran en vedette. C'est jusqu'à demain soir, avenue Hoche. Demain dimanche, l'invité d'Orient Hebdo sera Ella Wardi, à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Meurtre à la mosquée, troisième volet de ses Califes maudits. À demain, portez-vous bien.
Musique du monde.